L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Bonjour à tous. Vraiment, c'est un grand plaisir. On va tous fermer les yeux. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te bénir, Seigneur. Merci parce que c'est par ta grâce que nous sommes là. Merci parce que c'est toi qui fais ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, moi. Des hommes et des femmes nés de nouveau. Parce que sans ton sacrifice parfait, Père, aucun homme, Seigneur, ne pourrait venir dans ta présence. Alors, Père, je vais encore te bénir pour cette église. Je te bénis pour les pasteurs. Je te bénis pour chaque personne qui est présente aujourd'hui ici et sur Internet, Père. Que vraiment tu puisses ouvrir nos yeux, Père. Et je prie afin que tu donnes un esprit de sagesse et de révélation à chacun de nous ici présents, Père. Que tu fasses tomber les écailles de nos yeux, Seigneur, afin que nous voyons ce que tu veux que nous voyons. Fais tomber les bouchons de nos oreilles, afin que nous entendions ce que tu veux que nous entendions, Seigneur. Merci pour ta parole, Père, parce que tu as dit que tout passera, mais ta parole demeurera, Seigneur. Alors je te bénis, Seigneur, pour ton peuple. Je te bénis aussi pour tout ce que tu vas faire maintenant, Père. Je ne suis qu'un vase, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Utilise-moi comme tu le veux, Père. Que je ne dise ni plus ni moins, juste ce que tu veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et merci, Saint-Esprit, pour ta présence, ce lieu. Que ton nom soit béni et élevé. Amen. Amen. Quel plaisir d'être avec vous. Ma femme vous a remercié. Je fais aussi mes remerciements personnels. J'aimerais remercier vraiment le pasteur Joël et son épouse qui nous ont vraiment accueillis chaleureusement. Et quand je l'ai vu en France, comme je disais, c'est moi qui l'ai invité la première fois. Je peux m'en vanter. Mais je le connaissais bien avant. Il vous l'a déjà dit parce qu'une fois, je regardais votre site. Je regarde souvent pour voir ce que dit pasteur sur moi. Mais je plaisante. Mais c'est vrai que je le connaissais bien avant. Qu'il soit pasteur de vécu, je l'avais regardé sur Internet. Et une fois dans mes prières, je dis, Seigneur, le jour où je serai pasteur, je prie vraiment que je puisse avoir l'opportunité de l'inviter. Et vraiment, c'est des connexions. Moi, je crois aux connexions divines. Vous savez, moi, je crois qu'on a des relations, non, on a des relations naturelles, mais je crois plus aux relations divines, qui est surnaturelles, parce que c'est Dieu qui établit toutes choses. Et vraiment, j'aimerais le remercier, lui et son équipe, et surtout votre église. Vous avez vraiment un grand amour. Vraiment, vous avez des pasteurs exceptionnels. Et moi, je crois réellement que vous allez encore grandir. Parce que quand ma femme et moi, nous prions pour ça, on croit que Granby n'est qu'une petite étape pour vous. Et encore plus et encore plus. Amen. Amen. Alors, on va attaquer la parole de Dieu. C'est vraiment avec humilité, avec grâce que je veux vraiment vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais parler de la présence de Dieu. Souvent, vous savez, on parle beaucoup de la présence de Dieu. Et je vais commencer par le verset qui me tient à cœur, c'est Marc chapitre 5, au verset 24 et 34. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette histoire, vous connaissez tous. Et je crois qu'il y a une chose qu'on oublie quelquefois. Des fois, nous disons toujours qu'on attend Dieu, mais je crois que des fois, c'est Dieu qui nous attend. Et dans ce passage, Marc chapitre 5, au verset 25 et 34, on va voir une femme, que vous connaissez tous cette histoire, sur la femme de perte de sang. Et quand je lisais cette histoire encore ce matin, quand je priais, je me suis rendu compte qu'elle avait compris quelque chose, qu'elle avait réalisé. Et vraiment, ma prière, c'est que vous et moi, nous réalisions. Je dis souvent dans mon église que quand je ne prêche pas seulement pour le peuple de Dieu, je prêche pour moi-même. Moi, je crois que la première chose, en tout cas, c'est ce que j'ai appris, chaque fois que je prêche, chaque fois que je réécoute mes messages, je dis c'était pour moi. Et je crois que même ce matin, quand je vous parlais, je sais que Dieu veut me parler à travers de cela. Amen. C'est pour ça, ouvrez les oreilles, s'il vous plaît. Si ce n'est pas pour vous, alors c'est pour moi, au moins. Amen. S'il y a quelqu'un qui écoute, au moins, je sais que moi, je vais écouter. Amen. Dans Marc, chapitre 5, au verset 24 et 34, vous y êtes ? Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse? Et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Cette histoire, on la connaît tous. Amen. Pour vous qui êtes une église avec des vrais enseignants, vous connaissez cette histoire de cette femme. Mais moi, ce qui ressort de cette histoire, c'est surtout le verset 24 de ce qu'on a lu. Regardez ce qu'il dit. Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le suivait et le pressait. Vous savez, moi je crois que la présence de Dieu, elle est toujours présente. Je crois que quand deux ou trois sont unis en sa présence, Dieu est présent. Mais je crois aussi que dans sa présence, il y a de la guérison. Dans sa présence, il y a la bénédiction. Dans sa présence, il y a la consolation. Mais ce qui me perturbe dans toute cette histoire, c'est qu'une seule femme a pu le saisir. Pas parce que Dieu ne voulait pas guérir d'autres personnes, mais cette histoire, il n'y a qu'une seule guérison qui a été sortie. C'est la femme. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, on peut tous être présents dans la présence de Dieu. On peut tous être là et Dieu est présent. Mais ne rien avoir. C'est triste ce que je dis, mais c'est la réalité. La Bible dit qu'une grande foule le pressait. Et si vous lisez tout le chapitre de Marc, chapitre 5, nous voyons que la foule le suivait parce qu'il avait guéri quelqu'un, parce qu'il avait chassé des démons. Alors les gens voulaient le voir. Et je crois que l'église n'est pas un lieu d'observation. L'église est un lieu d'action, où chacun de nous, nous sommes acteurs de ce que Dieu a pour nous. Parce que comme le dit si bien votre pasteur, Dieu a une destinée. Dieu a des plans et des buts, pas seulement pour le pasteur Joël, et pasteur Mathilde, ou pour le pasteur Wallace ou son épouse, ou pour le pasteur Jérémy ou son épouse, ou pour le pasteur Jean et son épouse. Non, Dieu a une destinée pour chacun de vous ici présents. Mais c'est à nous de le saisir. Et cette femme, elle a fait quelque chose de plus que d'être dans sa présence. Elle s'est tenue dans sa présence. Vous savez, ça fait une grosse différence. Quelquefois, quand je marche dans les rues, je vois souvent des personnes avec leur rocking chair. Ils sont assis sur le patio, en train d'attendre et d'attendre. Quelquefois, nous venons d'église en église. Nous venons à chaque dimanche. J'ai calculé à peu près combien de dimanches j'ai écouté. Ça fait à peu près 10, 20 ans que je suis chrétien. J'ai calculé que ça fait 1040 dimanches que je viens à l'église. 1040 dimanches que je vais à l'église. Je suis un homme qui a grandi dans l'église. Amen. Quand j'ai rencontré Dieu. Moi, ne pas venir à l'église le dimanche, ce n'est pas possible. Même pendant les vacances. Quand j'étais là pendant les 21 jours, avec mon épouse, on a dit on va aller à EVQ. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est une église de la parole. Mais pas seulement de la parole, amen, mais de l'action. Amen. Parce que ça ne sert à rien de remplir sa tête. Comme disait tout à l'heure le frère Yvan, connaître Dieu par l'intelligence ne changera rien dans votre vie. Ce qui change, c'est que vous le connaissiez personnellement et de voir ce qu'il peut faire dans vos vies. Et je crois réellement que c'est ça qui s'est produit. Cette femme s'attendait à quelque chose. Elle savait que la présence de Dieu ne faisait pas seulement passer. Quelquefois, on fait de dimanche en dimanche, de réunion en réunion, et Jésus passe à côté. Il te dit, mais j'ai envie de te bénir. Mais là, tu es là en train de dire, j'attends Dieu. Et Dieu est là en train de te dire, non, je veux te donner quelque chose. Une foule le pressait. Imaginez-vous, une foule. Ma femme aime les magasins. Comme vous dites chez vous, magasinage, n'est-ce pas? Vous aimez ça, magasiner. Et ma femme aime ça. Je ne sais pas si elle est championne du monde, parce qu'elle n'a pas encore concouru contre des chrétiennes canadiennes québécoises, mais je peux vous dire qu'elle fait partie de cela. Moi, en tout cas, je la mets sur le podium. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des soldes, vous savez comment ça se passe. Les gens se pressent, les gens sont collés. Et là, Jésus dit quelque chose à ce moment précis. Il dit, quelqu'un m'a touché. Et là, les disciples disent, mais attends Seigneur, je crois que tu es un peu fatigué. Tu as trop voyagé, je crois qu'il faut que tu dormes un peu. Il dit, regarde la foule qu'il y a. Mais Jésus savait que dans cette foule, il y avait quelqu'un qui avait fait la différence. Elle n'était pas seulement venue pour attendre ou pour voir passer Jésus. Elle était venue pour tenir la promesse que Dieu avait pour elle. Quelle est la promesse que Dieu a pour vous ce matin? Parce que c'est la question qu'on doit savoir aujourd'hui. Quand nous venons chaque dimanche, nous venons, c'est vrai, écouter le pasteur Joël Spinks. Qu'est-ce qu'il prêche bien? N'est-ce pas? Amen. Ah bon? J'avais peur, pasteur Spink, je suis désolé, j'avais peur. Je me suis dit, je suis le seul à avoir aimé ces deux beaux cultes, ces deux beaux messages. Mais un message n'est rien sans la mettre en pratique. Et je crois que le but de chaque pasteur qui passe ici, c'est pas seulement vous donner des beaux messages, c'est que ces messages deviennent une réalité dans vos vies. Que ça devienne pas seulement une vérité, Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais une réalité, c'est-à-dire que vous viviez réellement ce que dit la parole de Dieu. Cette femme, n'oubliez pas d'où elle venait. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. 12 années de maladie. Où elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle avait. Elle avait même les médecins devaient dire, écoute, on ne peut rien faire pour toi. C'est fini, arrête de donner de l'argent. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'ayant entendu parler de Jésus, vous et moi, nous venons à l'église parce qu'on a entendu parler de Jésus. Mais s'il vous plaît, Jésus ne veut pas seulement qu'on entende parler de lui. Il veut qu'on le voie dans nos vies. Et c'est de ça qu'on parle ce matin. Se tenir dans sa présence. Pas seulement être dans sa présence. C'est beau les chants. Comme je dis souvent, il y a des foules, ils aiment ça. Vous savez, quand vous allez dans des concerts du monde, excusez-moi de le dire, les gens, ils sont comme des fous. Ils sont contents. Mais quand ils ressortent, la vie continue. Nous, quand nous sortons de l'église, la vie ne doit pas être la même. Je dis souvent, quand les gens rentrent de l'église, il faut qu'ils ressortent différents. Ça veut dire que leur vision a dû changer. Ce qu'ils connaissent de Dieu a dû dire, non, moi, je veux encore plus et encore plus. Je disais au pasteur Jérémy, quand il m'a amené chez le pasteur Fofi, je disais, tu sais, le but d'IBEM, le but d'une école biblique, ce n'est pas de connaître Dieu dans notre tête, c'est que nos vies soient changées. C'est qu'on puisse réaliser, voilà, qu'est-ce que l'école biblique a pu me faire. Je fais aussi, comment on appelle ça, de la pub chez moi aussi pour IBEM. Et je vous invite vraiment à le faire. Ça va changer vos vies. Parce que ce n'est pas seulement de l'étude, comme je dis souvent. Ça ne remplit pas seulement la tête, ça remplit le cœur. Ça nous assoit dans ce que dit la parole de Dieu. Alors on continue dans cette histoire. Et cette femme, à un moment donné, quand elle le touche, quelque chose s'est produit. Il y a quelque chose qui est sorti de Dieu. Vous savez ce que c'était ? La guérison. Qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui de Dieu ? Pour vous. Pour chacun de vous ici. Moi, je sais ce qui va sortir de Dieu. Quand tout à l'heure, j'écoutais le chant que j'aime beaucoup, l'amour de Dieu, qu'il connaît mon nom, j'ai encore réalisé combien Dieu m'aime. J'ai encore réalisé ce que Dieu a fait dans ma vie. Chaque jour de notre vie, nous devons réaliser qui nous sommes en Christ. Amen. Moi, j'ai déjà pris ma part de bénédiction. J'espère réellement que chacun de vous allez saisir ce que Dieu a pour vous. Parce que Dieu n'est pas seulement une histoire. Dieu n'est pas une fiction. Jésus n'est pas quelqu'un qui est venu seulement se promener sur cette terre. Il est venu pour changer notre destinée pour toujours et à jamais. Et c'est ce qui s'est produit dans cette femme. Cette femme, elle avait perdu toute sa vie, 12 années. Elle aurait pu venir parmi la foule, voir Jésus passer. Parce que quelqu'un lui a dit, je vais te parler de quelqu'un. Il y a Jésus qui arrive, c'est celui qui guérit. Elle dit, ah bon, allons le voir. Et là, elle aurait pu juste être une spectatrice, comme beaucoup de chrétiens sont. Vous savez, j'ai demandé à mon église, et j'enseigne là-dessus, j'ai demandé, je ne veux plus des chrétiens dans l'église, je veux des disciples. Des gens qui vivent pour Christ. Pas parce que le pasteur dit « vivez pour Christ », mais parce qu'ils ont connu Christ. On viendra tout à l'heure sur l'histoire de Job, que tout le monde aime. Mais moi, j'aime la fin. Parce que l'histoire, pour moi, c'est ce qui est important, c'est ce qui est à la fin, n'est-ce pas ? Chez nous, on dit, on paye les musiciens à la fin. On entend d'abord ce qu'ils chantent et après, on les paye. Et je crois que c'est la même chose dans Job. Job a une révélation. Souvent, les gens aiment prendre l'histoire de Job pour dire « oh, on souffre, c'est normal, Job a souffert ». Mais la vraie histoire, elle n'est pas là. C'est que Job a une révélation. Dans chaque parcours de nos vies, difficile ou pas difficile, ou moins difficile ou plus difficile, à un moment donné, Jésus doit sortir vainqueur. À un moment donné, ta connaissance de Dieu, elle n'est plus intellectuelle, elle est humaine. Amen. C'est ça la réalité. Alors cette femme, elle a tenu sa promesse. Quelle est la promesse que Dieu a pour vous ce matin ? Qu'est-ce que vous voulez saisir de Dieu aujourd'hui ? Peut-être connaître plus de son amour. Je disais tout à l'heure, moi j'étais là, j'ai saisi encore plus de son amour. Je n'étais pas destiné à vivre ici. Pas au Québec. Non, vous inquiétez pas, ma terre promise, c'est là où coule le lait et le miel. Non, le sirop d'érable. Ici, c'est ça que coule ici. Chez moi, ne coule pas de sirop d'érable. Il coule le lait et le miel. On a des vaches et on a des abeilles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'étais pas destiné à être un prédicateur. J'étais loin de l'avoir en vie. Ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien, comme je vous disais. J'ai donné ma vie il y a un peu plus de 20 ans. J'ai servi pendant 14 années, 15, 16, ça fait 5 ans que je suis dans le ministère, 15 années auprès de mon pasteur. Toujours prêt à être à côté de lui. Jamais je n'ai voulu le micro. Le jour où il m'a demandé de prêcher, il m'a laissé une heure comme ici. J'ai prêché sur le Saint-Esprit en 5 minutes. J'ai fui. Parce que je savais que je n'étais pas fait pour être un orateur. savez, moi, je ne crois pas être un bon orateur. Je crois seulement être quelqu'un qui aime Jésus, qui veut vous le communiquer. Vous savez, le but, ce n'est pas être un bon orateur, de bien parler. Le but, c'est que ce qu'on dit, on le vit. J'ai dit à ma femme, si je prêche quelque chose que je ne vis pas, reprends-moi tout de suite. Parce que je crois que la vraie vie chrétienne et la vraie prédication, c'est ce qu'on vit. Je dis au pasteur, jamais, vous savez, moi, j'ai des messages. J'en écris plein, mais je sais que ce n'est pas le temps parce que je ne le vis pas. Aujourd'hui, je veux vraiment vous prêcher ce que je vis. Ça veut dire s'attendre à Dieu. Mais pas seulement, c'est se tenir dans sa présence. Alors, on est passé par cette histoire de cette femme perte de sang, où on avait entendu parler. Et cette image, je vais la donner comme l'exemple d'une église. Vous et moi, nous avons entendu parler de Dieu et nous sommes rentrés dans l'église. Je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes chrétien. Peut-être ça fait 1 an, peut-être 6 mois, ça fait peut-être 10, 20, 30 ans. Mais cette femme, nous voyons que dans toute la foule qu'il y avait, il n'y en a qu'une qui a saisi sa guérison. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Une seule a arrêté Dieu sur le chemin de la guérison. Parce que n'oubliez pas, Jésus partait pour guérir, n'est-ce pas? Lisez bien Marc chapitre 5. Mais Jésus s'est arrêté. Et ce que j'aime, c'est que Jésus est prêt à s'arrêter aujourd'hui pour chacun de vous. Parce qu'il y a un peu plus de 2000 ans, il s'est arrêté pour donner sa vie à chacun de nous ici présents. Alors il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Peu importe les années que vous êtes chrétien, peu importe combien de temps, Dieu est prêt maintenant à s'arrêter. Mais j'aimerais parler maintenant d'une autre histoire qui parle justement encore plus de se tenir dans sa présence. On peut? On a encore le temps, pasteur? Ah bon, alors on y va là. Vous inquiétez pas, je suis très ponctuel. On va y aller. Alors, je veux parler de Luc chapitre 10, s'il vous plaît. Vous connaissez tous cette histoire. À partir du verset 38. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Je disais tout à l'heure sur l'histoire, en parallèle qu'on a imagé, c'est un peu quand on entend parler de Jésus, on rentre dans l'église. Là, nous voyons qu'à un moment donné, il y a une femme nommée Marthe. Où Jésus passait par là, Marthe l'arrêta et lui dit « Viens dans ma maison ». Vous savez, au temps des prophètes, au temps de l'Ancien Testament, quand un prophète passait, quand quelqu'un le recevait dans la maison, il savait qu'il y avait une bénédiction derrière, n'est-ce pas? Je sais que vous le savez, votre pasteur Spinks enseigne très bien. Mais ce que je veux dire par là, et à ce moment précis, elle savait qu'elle a dit « Non, je ne vais pas laisser Jésus passer sans qu'il rentre dans ma maison. » Alors qu'est-ce qu'elle fit? Elle fit comme tout le monde. Elle lui dit « Rentre dans ma maison. » Mais il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. Dans nos vies, nous avons accepté Jésus-Christ. Mais quelquefois, les difficultés sont venues dans nos vies. On a oublié ce premier amour. Et c'est ce qui s'est produit. Elle avait tellement hâte de le faire rentrer à la maison. Regardez ce qu'il dit. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Dès qu'il est rentré dans le village, je suis sûr que Marthe était la première pour dire « Non, la première maison que je veux que tu rentres, c'est chez moi. » Mais quelque chose se produisit. La Bible dit qu'une femme dans cette maison a reçu sa bénédiction. Est-ce que vous entendez bien ce que je dis? Une femme. Pourquoi? Parce qu'elle s'est tenue dans sa présence. Elle savait que tu pouvais t'occuper de tout, mais ne pas faire la seule chose que Dieu te demande. Ma phrase de prédilection dans mon ministère, c'est « Je peux faire toute chose, mais ne pas faire la seule chose que Dieu me demande. Je peux venir à l'église tous les jours, mais peut-être ne pas faire la seule chose que Dieu me demande. Je peux venir à la réunion de prière, mais peut-être ne pas faire la seule chose que Dieu me demande. » Vous savez, notre premier service dans le ministère, ce n'est pas de prêcher la parole, c'est d'avoir une relation avec Dieu. La première chose que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Et là, elle a fait comme toute femme fait bien. Elle s'est occupée de l'invité. Elle s'est occupée de tout ce qu'il y avait, mais ne s'est pas occupée de ce qu'il fallait. Vous savez, moi je crois que des fois, Dieu veut qu'on cherche la priorité. On va revenir sur cette histoire de cette femme perte de sang. Quelle était sa priorité, s'il vous plaît? Sa priorité était de toucher Jésus. Sa priorité n'était pas seulement de le voir.
Quelquefois, nous venons à l'église pour voir le prédicateur, pasteur Joël, pour voir pasteur Intel, pour pasteur Intel, dire waouh, qu'est-ce qu'il prêche bien, qu'est-ce que j'aimerais comme lui. Vous savez, on ne pourra jamais porter le manteau de quelqu'un parce que Dieu nous a appelés à être différents. Et je bénis l'Éternel. Amen. Je ne prêcherai jamais aussi bien que le pasteur Joël ou le pasteur Jérémie. Mais ça ne me dérange pas du tout. Parce que moi, je veux être où Dieu veut que je sois. Je ne suis pas appelé à aller au Québec, je suis désolé. Vous n'aurez pas un français en plus, je suis désolé. Mais ça me réjouit quand même de savoir que je ne suis pas appelé ici. Parce que j'ai un plan. Parce que Dieu a écrit une destinée. La Bible dit que Dieu vous a préparé de bonnes œuvres afin que vous les accomplissiez. Vous savez, Dieu n'a pas préparé de bonnes œuvres afin qu'on dise, waouh, qu'est-ce que c'est exceptionnel. Alors j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, afin que nous les accomplissions. Et là, on est sur la même chose. Cette femme avait reçu Jésus, mais elle n'avait pas compris que Jésus, la seule chose qu'il voulait, ce n'était pas de manger, ce n'était pas d'avoir un bon lit, ce n'était pas d'avoir un bon café. Oui, pas le café Tim Horton, hein. Un vrai café, un espresso, pas un café du Canada. Quand j'ai entendu ma femme rire, j'ai compris tout de suite, parce qu'elle sait que moi, j'aime que les cafés espresso serrés. Mais ce n'est pas ça que Jésus était venu chercher. Jésus était venu pour la rencontrer, elle. Mais quelquefois, nous sommes venus à l'église pour rencontrer Jésus. Et nous venons, mais nous ne le rencontrons jamais. Non pas parce que Jésus a fermé la porte, mais Jésus te dit, quand est-ce que tu viens à moi? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelquefois, on est chargé, on est plein de tristesse, on est plein de colère et d'amertume, mais on vient comme si rien n'était. Mais le Seigneur dit, non, ta priorité, c'est quoi? J'aimerais vous rappeler cette histoire avec l'aveugle Barnabas. Est-ce que vous vous souvenez tous de Barnabas? N'est-ce pas? Il criait à Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Les disciples l'arrêtaient, dit tais-toi. Jésus doit traverser. Il continua encore à dire, fils de David, aie pitié de moi. Et à un moment donné, Jésus s'arrêta. On pourrait dire, ça y est, il a reçu sa bénédiction. Non, Jésus lui demanda quoi? Que veux-tu que je te fasse? Mais moi, si j'avais été Barnabas, j'aurais dit, mais Seigneur, ne vois-tu pas que je suis un mendiant? Ne vois-tu pas que je suis aveugle? Barnabas, mais le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu exactement? Il aurait pu demander de l'argent, n'est-ce pas? Parce que si vous lisez bien, Barnabas était un mendiant. Il mendiait tout le temps. Il était là au dehors de la porte. Il était là en train de demander. Il aurait pu demander l'argent. Mais il savait qu'il avait besoin de retrouver la vue. Il savait ce qu'il avait besoin. Et c'est la même chose. Marthe pensait qu'en acceptant Jésus, tout allait changer. Nous, quelquefois, quand nous venons à l'évangile, on nous dit, oui, tu vas venir à Christ, tout va changer. Ça va changer à partir du moment que toi, tu le veuilles. Est-ce que vous le saviez, cela? Ce qui s'est passé pour cette femme de perte de sang, comme je disais tout à l'heure, elle n'était pas spectatrice de la guérison. Elle est devenue actrice parce qu'elle a saisi. Marthe, à ce moment-là, quand elle a accepté le Seigneur rentrer dans sa maison, elle est devenue spectatrice. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris que toutes les bénédictions en Dieu sont amen. C'est ce que disait tout à l'heure votre pasteur. Toutes les promesses de Dieu sont amen, et oui. Un jour, on discutait avec ma femme, on disait, mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et ma femme, qui est une femme sage, parce que moi je pense que Dieu peut tout faire, elle me dit, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est ce que tu ne veux pas. Est-ce que vous entendez bien ça? Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est ce que vous ne voulez pas. Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est ce que tu ne veux pas. Barnabas aurait pu ne jamais recevoir sa guérison quand le Seigneur lui a posé la question. Parce qu'il aurait pu dire, attends, Seigneur, tu connais ma vie. Et quelquefois, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas, quand nous venons à l'église. Nous sommes dans sa présence, il va changer ma vie. Il va changer ta vie si tu le laisses, ta vie. Il va changer tes problèmes si tu laisses ton problème. Il va changer ta colère si tu laisses ta colère. Il va changer ton pardon si tu laisses ton aminosité. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu laisses ta colère à Dieu, il te changera. Mais ça ne dépend pas de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez dans ce que Dieu veut? Dieu, aujourd'hui, veut que nous soyons acteurs de nos vies. Nous aimons dire dans Isaïe, tout est accompli. Nous aimons lire la parole d'Isaïe 53 qui dit, par ses meurtrissures, il a pris toute maladie. N'est-ce pas? Mais est-ce que nous saisissons cela? Est-ce que nous saisissons quand on dit, Dieu veut que tu ne manques de rien? Vous savez, l'Éternel est mon berger, je le connais par cœur. Mais un jour, un serviteur m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, ce berger, il faut que tu le connaisses. C'est facile de répéter, de lire et de lire sans cesse cette histoire. Mais si vous ne savez pas qu'il est vraiment celui qui pourvoit vos besoins, ça ne pourra jamais changer votre vie. Parce que c'est ça la réalité. Cette femme de perte de sang, elle avait réalisé qui elle était. Et regardez ce que Jésus dit à Marthe quand elle se plaint. Parce que nous, des fois, on se plaint. Vous, peut-être jamais ici. Moi, en tout cas, je me plains beaucoup en France. Oh Seigneur, pourquoi ça? Oh Seigneur, pourquoi ceci? Regarde là, un tel. Regarde ceci, regarde cela. Un peu comme Marthe a dit. Mais Seigneur, moi je te sers. Regarde Marie, elle fait rien. Elle reste à tes pieds. Mais Jésus a dit quoi? Jésus a dit qu'elle a choisi la bonne part. Parce que la vraie part, c'est être au pied de Jésus. C'est entendre les paroles qu'il a pour toi. Parce que ces paroles te changeront pour toujours et à jamais. Si tu les laisses, ces paroles pénétrer en toi. Je dis souvent, avant de voir la réalité, il faut d'abord que ça soit une vérité en toi. Amen. Je vais vous donner un témoignage simple. Il y a un peu plus d'un an, j'ai quelqu'un qui m'a appelé qui était atteint du cancer. Et ça a été très dur pour lui. Il a subi la chimio. Il me dit, pasteur, rien ne va. Ma femme veut divorcer. Mes enfants, ils ne m'écoutent plus tout. Et là arrive un moment, une mauvaise nouvelle, le cancer. Ah, vous savez, quand vous êtes face à la crise, face à un tsunami, à une tempête, là, il me dit, oh, le Seigneur m'a puni. J'ai dit, le Seigneur ne punit personne. Parce que le Seigneur aime ses enfants. Il n'y a que le diable qui ne nous aime pas. Amen. Et là, à ce moment précis, il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, écoute, on va prier. Et on va croire, on va saisir. Il faut que tu croies réellement que Dieu veut te guérir. Il me dit, mais tu penses réellement que ce n'est pas une histoire? Et là, je suis en train de me dire, 20 ans qu'il est chrétien, il me dit, si ce n'est pas une histoire. Vous savez, on peut venir à l'église et toujours croire que c'est une histoire. On peut être comme ces enfants qui ont l'impression que c'est une histoire, mais ils savent que c'est une vérité. Et là, à un moment donné, j'étais un peu surpris. Alors, toutes les semaines, on l'a appelé. 6 mois plus tard, il m'appelle en me disant, ça va. Les médecins ont trouvé du changement. Mais je le sentais un peu négatif. Mais je dis, alors, on va continuer à prier. Avant que je parte évangéliser en Auvergne, il m'appelle, il me dit, pasteur, une bonne nouvelle. J'ai dit quoi? Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri totalement. Et je dis, béni soit l'Éternel. Il me dit, c'est grâce à toi. Je dis, non, c'est grâce à toi, parce que tu as mis ta foi en action. Vous savez, Dieu attend de chacun de nous ici présents d'être des acteurs de sa vie. Dieu n'attend pas que ce soit le pasteur Joël ou le pasteur Mathilde qui soit là en train de tenir vos mains. Ils tiennent vos mains à un moment donné, mais à un moment donné, vous et moi, nous devons devenir des adultes. C'est-à-dire des personnes qui disent, non, ce que dit pasteur Joël, je veux le mettre en pratique. Parce que c'est ce qui s'est produit à un moment donné dans la vie de Marthe. Marthe, elle a réalisé qui était Dieu. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas fait la bonne chose au moment qu'il fallait. Je disais tout à l'heure, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais ne pas faire la seule chose que Dieu nous demande. Quelle est la chose que Dieu vous demande ce matin? Tout à l'heure, je disais, quelle est la promesse que vous voulez saisir? Mais quelle est la chose que vous voulez, que Dieu veut qu'on fasse? Souvent, quelqu'un me disait, pasteur, aide-moi à prier pour pardonner. J'ai dit non. Tu pardonnes et après on priera. Mais nous, on fait le contraire. On dit, Seigneur, d'abord, tu vas m'aider à pardonner. Non, le Seigneur dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Vous savez, la parole de Dieu, il y a des choses qui sont claires. Il y a des choses, il n'y a pas besoin de prier. Il y a seulement besoin de marcher. Amen. Et souvent, on oublie cela. Quelquefois, je vois des chrétiens dire, oui, je prie pour avoir de l'amour. Mais non, la Bible dit que tu es rempli d'amour. Mais c'est à toi de marcher et dire, oui, je dois aimer. Est-ce que c'est facile? Non. Mais si c'était facile, il n'y aurait pas besoin de foi. Je dis souvent, Dieu, quand il nous demande de faire quelque chose, ça nous demande quoi? De la foi. Amen. Mais s'il ne nous le demande pas, c'est que tu as déjà la capacité. Souvent, on attend de prier. Mais Dieu dit non, n'attends pas de prier, marche. Amen. Marthe attendait quelque chose. Mais Marie, elle a saisi la bénédiction. J'aimerais que chacun de nous ici, nous puissions saisir la bénédiction que Dieu a pour nous. Parce que c'est ça la réalité. Jésus est rentré dans votre vie. Mais qu'est-ce qu'il a changé? Alors avant de finir ce message, parce que j'ai voulu vraiment qu'on y rentre vraiment dans se tenir dans sa présence pour que vous compreniez réellement qu'être dans sa présence ne changera pas votre vie. Venir à l'église dimanche après dimanche ne changera pas votre vie si vous ne mettez pas en pratique ce qui est dit. Parce que vous dire que ça ne change pas votre vie, c'est faux. Mais si vous l'écoutez seulement, ça ne changera pas votre vie. Vous savez, j'ai écouté des poètes comme Jacques Prévert, j'ai écouté des chants. Ça n'a jamais changé ma vie. Mais ça change ta vie si tu décides de la mettre en pratique. Dans Jacques, il dit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez-la en pratique, car pour vous, cela est salutaire. Nous ne te demandons pas de faire ce que tu ne peux pas faire. Nous te demandons seulement une chose, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Amen. Pour toi aujourd'hui, tu n'as pas la force. Béni soit l'Éternel, parce que tu as des pasteurs qui peuvent t'aider à prier avec toi. Mais après avoir prié, il faut aussi que tu te mettes en pratique. Amen. Parce que c'est ça la réalité. Cette année, on va fêter nos 19 ans de mariage. Vous pensez que 19 ans de mariage sont faciles? Alors si vous n'avez pas encore compris ce qu'était le mariage. 19 ans de mariage. De haut, de bas, de très bas, de haut, de bas, de très bas, de haut. Des moments où ça n'a pas été facile. Vous savez, moi, quand ma femme voulait m'épouser, ou plutôt quand je voulais l'épouser, parce qu'il n'aime pas que je dise ça, le pasteur est venu lui dire, ne te marie jamais avec lui, il va te faire souffrir. C'est la vérité. Elle me l'a dit ça bien longtemps après. Même le pasteur ne misait même pas sur moi. Imaginez-vous. Et pourtant, maintenant, on va faire 19 ans. 19 ans de mariage. Et j'ai dit à ma femme, il nous reste encore 40 années avant de rentrer dans l'éternité. Je vais atteindre les 59, 60 ans de mariage. Je sais que je ne fais pas âgé, béni soit l'Éternel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est facile, rien n'est acquis. Un jour, j'ai appris une chose, et ça, je le fais aussi dans mon mariage et dans ma vie chrétienne. Ce n'est pas demain qui va s'occuper de demain. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui déterminera ce que tu feras demain. C'est ce que tu fais maintenant qui va déterminer demain. Et ce que demain tu feras, c'est ce qui déterminera après-demain. Et après-demain, c'est ce qui déterminera après-après-demain. C'est chaque jour que ce que tu vas faire va changer ta vie. Cette femme de perte de sang, le jour où elle a entendu parler que Jésus passait, elle a dit « c'est mon jour ». Le jour où Jésus est passé dans la ville, Marthe a dit « non, c'est mon jour ». Parce que je ne veux pas le laisser passer. N'attendez pas demain pour dire que demain changera. Parce que ce n'est pas demain que ça changera. Dieu n'attend pas demain que je lui dise que je l'aime. N'est-ce pas? Dieu n'attend pas cela. Dieu attend chaque jour de notre vie d'être des hommes et des femmes qui l'aimons. Non, ce n'est pas facile la vie chrétienne. Je n'aimerais pas vous dire que tout est facile. Mais avec Dieu, c'est facile. Parce que si vous laissez tout entre les mains de Dieu, il y a une parole que vous et moi, nous connaissons tous par cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître toutes choses à Dieu. N'est-ce pas? Un jour, j'ai voulu voir si mon pasteur disait la vérité. Un jour, il m'a dit, écoute-moi, dans la parole de Dieu, c'est marqué 365 fois, ne crains pas. Vous savez ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas cru. J'ai fait moi-même ma recherche. Je ne vous demande pas de me croire. Vous savez, nous, avec ma femme, on a un désir que mon église soit une église de béret. Si vous avez étudié la parole, vous savez ce qu'était l'église de béret. Ils écrivaient chaque chose qui était dite et l'examinaient. Nous ne sommes pas, comme je dis, des oies où on nous gave, où la parole elle vient, on dit amen à tout. Non, on examine, on réfléchit, on la médite et on la médite jusqu'à que ça devienne vérité. Et mon pasteur me dit, tu verras. J'ai dit, je suis sûr que je vais trouver une fois, il n'y a pas. Il me dit, tu verras, il n'y a pas plus 365 et pas moins. Alors il m'a mis au défi, alors je l'ai fait. Et il y a bien 365 fois où il s'écrit, ne crains pas. Ça veut dire chaque jour de notre vie, Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Chaque jour de notre vie, Dieu veut que tout soit entre tes mains. Ce n'est rien d'autre. Cette femme de perte de sang, elle avait compris où saisir sa guérison. Elle a dit non, ce n'est pas être dans la foule qui changera ma vie. C'est être auprès de Dieu. Cette Marie, elle avait compris que ce n'était pas au fourneau que Jésus voulait qu'elle soit. Ce n'était pas en train de faire à manger ou en train de se préoccuper. Mais qu'est-ce que demain sera? Comment mon couple va être? Comment mes enfants vont devenir? Comment l'église va... Non, reste dans ma présence. Parce que là, dans ma présence, je trouverai tout. J'aimerais vous dire vraiment que c'est se tenir dans sa présence qui changera votre vie. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Ça fait partie de l'église. Mais à la maison, il y a quelque chose à faire. Vous savez, si vous calculez la journée... On a 2 heures à l'église, n'est-ce pas? C'est bien ça, pasteur Joël. 2 heures seulement. Si vous ne venez que pour 2 heures dans la semaine, vous allez faire comme une voiture qui est au rouge. Vous devriez avoir chaque jour une communion avec Dieu. Chaque jour avoir une relation avec Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je sois? Que veux-tu que je devienne? Parce que ce que je désire, ce n'est pas faire ce que je veux, mais faire ce que tu veux. Et c'est ça qui a transformé la vie de Pierre, Jacques, Jean. Parce qu'ils étaient auprès de Dieu. Et obligatoirement, il y avait un impact. Mais pourquoi j'aimerais vous dire pourquoi il faut être près de Dieu? Parce que si vous êtes près de Dieu, les gens le sentiront. Vous savez, moi je crois qu'on ne transpire que ce qu'on est. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas donner Jésus si vous n'avez pas Jésus. Vous ne pouvez pas donner de la joie si vous n'avez pas de joie. Vous ne pouvez pas donner de la paix si vous n'avez pas de paix. C'est impossible. Vous ne pouvez pas donner de l'amour si vous n'avez pas de l'amour. Mais ce Jésus, il a tout. C'est pour ça que quand nous venons le dimanche, nous ne cherchons pas la consolation, nous cherchons le consolateur. Nous ne cherchons pas la guérison, nous cherchons le guérisseur. Nous ne cherchons pas un peu de paix, nous cherchons celui qui donne la paix. Nous ne cherchons pas toutes ces promesses, nous cherchons celui qui donne. Souvent dans l'église, malheureusement, il y a des gens qui cherchent que le don. À la place de chercher le donateur, parce que lui ne dort pas, il ne se couche pas, il est présent. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et ce chant qu'on chantait tout à l'heure, c'est ce qu'on chante à l'église, on l'aime beaucoup. Les promesses que Dieu a faites, ce n'est pas seulement pour le pasteur Joël. Ce n'est pas les promesses que Dieu a faites pour lui seulement d'aller d'Alberta à venir au Québec. Mais c'est pour chacun de vous ici présents, si vous voulez les saisir. Je ne vous demande pas d'aller faire le monde, parce que ça ne sert à rien de faire le monde, si Dieu ne vous le demande pas. C'est d'être où vous êtes, être acteur. Être actif dans ce que vous devez faire. Parce que c'est ce que Dieu nous demande chaque jour de notre vie. Quand le pasteur Joël vous dit de prier, ce n'est pas pour dire prier, c'est bien. Non, c'est que vous ayez vous-même cette relation avec Dieu. Que vous voyez qui est Dieu. Vous savez comment j'ai connu Dieu? C'est dans les temps de prière. Moi, il y a un sport que j'aime. Ce n'est pas de la théologie. Ce n'est pas de l'apologie. C'est la genéologie. J'aime me mettre à genoux pour Dieu. J'aime lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Nous aimons tellement la théologie. Nous aimons tellement discuter sur ça. Vous savez, moi, je prêche aux musulmans. Je prêche aux prisonniers. Je vais des fois discuter avec des gens qui sortent de prison parce qu'ils viennent me voir. Parce que j'ai une histoire. J'ai encore un peu de temps. Je me permettrai de raconter mon histoire. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne suis pas destiné à être un pasteur. Je n'étais même pas destiné à être un chrétien. Mais toutes les personnes qui viennent, que ce soit des sans domicile fixe, comme vous appelez homeless, ils viennent des fois et on parle de Dieu parce que j'aime parler de Dieu. Et quand ils repartent, quand je les vois avec un peu de joie, je me dis, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent? Non pas parce que je suis un homme exceptionnel ou parce que ma femme est exceptionnelle, c'est parce que Christ est exceptionnel. Vous allez attirer des perdus. Des fois, on dit, Seigneur, amène les perdus, mais le Seigneur dit, non, je vais les attirer, c'est moi qui vais faire les choses. On cherche partout, mais la Bible dit, nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Si vous ressentez de l'amour, les gens vont venir vous voir. Amen. Mais si vous avez de la colère, comment les gens pourront venir? C'est pour ça que ma femme aime le Québec. Elle m'a dit, les gens sont gentils. J'ai dit, ça dépend, parce que là tu es en vacances. On ne sait pas. Est-ce vrai ou pas vrai? Quand on est en vacances, on voit toujours tout beau. J'ai dit à ma femme. Moi, j'ai dit, les Français sont plus gentils. Elle dit, non. Mais je plaisante. Mais ce que je veux dire par là, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez à donner aux personnes? Des fois, on cherche de l'argent. Des fois, on cherche beaucoup de choses. Mais vous savez, les gens, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est qu'on les écoute. Les gens attendent de vous et de moi d'avoir une oreille. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que chaque fois qu'on a une oreille, ils vont nous dire quelque chose que Dieu dit dans la parole. Dans mon couple, ça ne va pas. Mais je connais celui qui construit le couple. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Parce que j'ai vu un miracle. Ah bon? Après, mes enfants ne m'obéissent pas. Je connais quelque chose. La parole de Dieu dit, vos enfants serviront l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, Dieu va vous faire rencontrer des personnes que jamais vous n'aurez pu imaginer qui vous parlent. Partout où j'étais, des gens m'ont raconté leur vie. Je ne les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ils ont commencé à me dire toute leur vie. Je ne suis pas resté comme ça. Oh, c'est dommage. Oh, c'est triste. Oh, c'est vraiment triste, on va prier. Non, je disais, tu sais, je connais quelqu'un qui peut changer ta vie. Parce que c'est ça la réalité. Jésus n'est pas un roman. Jésus n'est pas une fiction. Jésus n'est pas un conte. Jésus n'est pas une fable. Il est vivant pour ceux qui veulent l'accepter. Et c'est de ça notre détermination. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas plus convaincant que quelqu'un de convaincu. Vous devez être convaincu de ce que Dieu a fait dans votre vie. Pas de ce que le pasteur Joël a fait pour cette église. Mais ce que Dieu a fait dans votre vie. Je sais que le Dieu de Joël est le Dieu de Pasteur Pat. Je sais que le Dieu d'un tel est mon Dieu aussi. Chaque fois quand je suis surpris, quand je lis la parole de Dieu, combien les gens avaient une relation personnelle. Ils ne parlaient pas d'un Dieu comme si. Ils savaient qui était leur Dieu. Vous devez connaître ce Jésus qu'il est venu pour vous. Quand j'imagine Barnabas qui devait courir, qui devait avoir la vue, il ne disait pas « Oui, j'ai entendu parler de ce Jésus. » Non, ce Jésus est venu me guérir. Il est venu me sauver. Alors, comme il me reste un peu de temps, je vais vous raconter un témoignage. 11h45. J'ai encore un peu de temps, ça va ? Je vais vous raconter juste un témoignage, si vous le permettez. Je connaissais un petit homme. Il a grandi dans une famille. Tout allait très bien. Une famille normale. Où le père, la mère s'aimaient. Ils étaient trois. Mais malheureusement, la sœur, la grande sœur, a eu le cancer. Et elle est morte. Son père a commencé à boire. Et ce jeune homme était devenu le bouc émissaire. Et ce jeune homme prenait des coups partout. Son père était tellement colérique qu'il le frappait chaque jour. La seule chose que son père savait dire en aimant, c'était lui mettre des claques. Et quand le fils pleurait, il lui mettait du piment dans les yeux. Imaginez-vous. Et là, à un moment donné, ce fils grandit. Et là, il voit sa mère battue. Et là, il grandit dans cette zone de violence. Et là, en grandissant, il dit non, lui, il ne permettra plus personne maintenant de toucher à sa mère et plus personne à le laisser pleurer. Alors il s'endurcit de jour en jour, d'année en année. Et plus il s'endurcit, plus il devient violent. Il décide maintenant de se venger, pas sur son père, parce qu'il l'aime, mais de se venger sur des hommes et des femmes. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il s'amuse à braquer des personnes, à faire du vol sac à main, à casser des voitures. Là, il se retrouve en prison. Il ressort. Et là, on le met dans un centre parce qu'il est mineur. Alors on lui dit, non, tu vas aller dans un centre. Et là, dans ce centre, il s'endurcit encore plus et encore plus. Et là, il vit de violence en violence. Il grandit comme cela. Il touche à tout ce qui est en toxicomanie, que ça soit du shit, que ça soit de la drogue. Et là, lui-même, il devient une personne qui va revendre. Il se dit, voilà, au moins, moi, je ferai ma vie. Et là, un jour, il rencontre une femme qu'il aime, qui se rend compte qu'il aime. Ah, il va avec. Et là, un jour, il rencontre un homme qui lui dit, Jésus t'aime. Il a un père pour toi. Et là, il lui dit, mais t'es marrant. T'es marrant, toi. Tu dis qu'il a un père pour moi ? Il lui dit, mais l'image que moi j'ai du père, aimant, c'est celui qui frappe. L'image que j'ai du père, c'est celui-là que même quand un meuble tombe dessus, il le relève et il le chicote. Il l'enferme dans une cave. Vous avez une cave ou pas ? Il l'enferme là-dedans, il laisse pleurer toute la nuit. Il lui dit, mais si ton Dieu existe, s'il m'aime, alors pourquoi est-ce qu'il a subi ? Alors son cœur s'endurcit encore plus. Et un jour, il va à l'église parce qu'il veut accompagner sa future femme. Et là, il continue. Pendant un an, il va à l'église. Mais il sait que rien n'a changé dans sa vie. Il sait que toute l'amertume, toute la colère, l'animosité n'a pas changé du tout. Toute son histoire n'a pas changé. Et un jour, il voit ses amis qui disent toujours qu'ils ont de la coke, tout ça. Il lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu as vu l'argent qu'on a, tout ça ? Il dit, non, toi, tu ne vas pas à l'église pour Dieu. Tu vas à l'église pour un tel. Et là, il se pose la question. Il se dit, mais est-ce que vraiment Dieu existe ? Alors, il rentre dans sa chambre. Et là, à un moment donné, quelque chose se produit. Il se met à genoux et dit, non, si tu existes, sors-moi de tout ça. Sors-moi de la toxicomanie. Sors-moi de tout ce qui peut, de la drogue, tout ça. Et à un moment donné, il voit une lumière qui arrive. Et là, il y a des larmes. Mais pourquoi des larmes ? Parce qu'il s'était fait une promesse que jamais il ne pleurerait. Comprenez bien, il pouvait prendre des coups sur coups. Il pouvait prendre des coups sur coups, des claques. Il n'avait plus de larmes. Il pensait que dans sa tête, les larmes n'existaient plus. Mais à ce moment précis, il rencontre Jésus. Et ça, ça l'a changé sa vie pour toujours. Et cet homme, c'est moi. Quand je vous parle de celui qui console, je sais de quoi je parle. Quand je parle de celui qui a un père, je sais quand il a un père. Vous savez, Dieu n'est pas une fiction. J'aime le redire et le redire. Si vous voulez que Dieu rentre dans votre vie, ou vous voulez qu'il soit vie en vous, c'est à vous de faire le pas. J'aurais pu rester pendant des années, venir à l'église sans jamais rencontrer Dieu. Ça n'aurait rien changé dans ma vie. Ça n'aurait pas enlevé ma colère. Ça n'aurait pas enlevé mon amertume. Ça n'aurait pas enlevé ma violence. Et souvent, quand je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas destiné à ça. Vous savez, quand un jour, un pasteur m'a dit, tu imposeras les mains aux malades, et les malades seront guéris. J'ai dit, pasteur, ses mains, ils ont tué des gens. Ses mains, ils ont vraiment tué des gens. Il me dit, de ta bouche sortira des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Je dis, non, de ma bouche est sorti des calomnies, des insultes. Tu dis, comment est-ce que Dieu peut m'utiliser ? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que quand j'étais là en train de comprendre, Dieu connaît votre nom. Dieu connaît votre histoire du début à la fin. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, malheureusement. Mais je bénis Dieu que sur ma vie, à un moment donné, un homme m'a dit, Jésus t'aime. Je bénis Dieu qu'un jour, cette femme qui est là, a prié pour moi pour que je vienne à l'église. Vous savez, moi, je crois en la prière. parce que je suis le résultat de la prière. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai plus aucune colère. Je suis peace. Demandez à qui vous voulez. Demandez à ma femme. Tout a été changé. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu a transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne toucherai plus l'alcool. Parce que l'alcool ne me fait plus rien. Je ne toucherai même pas à la drogue. Parce que la drogue ne me fait plus rien. Quand je raconte ça dans le quartier, les gens, quand ils me regardent, parce que vous me connaissez comme cela, en chemise, pantalon, pasteur gentil, tout. Mais quand les gens me regardent encore, ils me disent, comment c'est possible ? Et c'est là la réalité. C'est possible en Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et vraiment, c'était mon témoignage que je voulais vous donner. Et vous dire que quand je vous dis s'attendre à l'Éternel ou se tenir dans sa présence, c'est ce que Dieu veut. Il n'y a pas de solution impossible pour Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas changer. Il n'attend qu'une seule chose, de vous et de moi de faire le pas. De vous et de moi d'avancer avec sa parole et dire « Seigneur, je croirai jusqu'à la mort. Rien dans le monde ne peut me retenir. » Rien dans le monde de mon passé ne peut me condamner parce que Christ est ma justice. Ça a mis du temps, ça a mis des années pour que je comprenne cela. Mais une chose que je suis sûr, c'est que personne ne peut me dire « Toi, tu étais comme ça, tu es comme ça. » Parce que maintenant, je suis une nouvelle créature. Amen. On peut prier ? Alors vraiment, Dieu est capable de changer vos vies. Je vous garantis, Dieu est capable. Ce que j'aime avec Jésus, vous savez c'est quoi ? C'est qu'il connaît notre nom. Il n'a pas dit, tiens, je vais prendre un tel au hasard. Non, il connaît chacun de votre nom. Si vous voulez de lui. Alors j'aimerais vraiment prier. Mais vraiment, Dieu vous aime. Et j'aimerais dire quelque chose avant de finir. C'est que c'est facile de prêcher ici. Vous avez tellement soif de Dieu. Mais s'il vous plaît, prenez l'eau. Buvez-la. Hydratez-vous. Vraiment, prenez le temps de la boire et de la boire. Que vraiment, chaque semaine, après chaque culte, s'il vous plaît, relisez la parole, relisez chaque mot. Remettez-vous dedans, baignez-vous dedans et vous allez voir combien c'est bon. J'ai appris tellement de Dieu dans mes temps d'intimité. Venir à l'église, c'est parfait, mais être dans sa présence, c'est mieux. Je vous assure. Alors vraiment, on va tous fermer les yeux. On va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux encore te bénir pour ton amour. Je veux encore bénir pour ta grâce, Seigneur. Merci, Père, parce que où je suis aujourd'hui, c'est par ta grâce. Je n'étais pas destiné, Seigneur, à être au Québec. Je n'étais pas destiné, Seigneur, à être un pasteur. Je n'étais pas destiné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, à ce que je suis devenu aujourd'hui, Père. Mais toi, tu as changé ça. Parce qu'il y a 2000 ans, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Seigneur. Merci d'avoir fait ce sacrifice parfait. Merci d'avoir donné ton Fils, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, afin, Seigneur, que nous ayons la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Merci, Seigneur, d'avoir écrit notre nom, Seigneur, dans le livre de vie, Père. Mais nous voulons, Seigneur, ce matin encore, saisir chaque promesse que tu as pour nous, Seigneur. Merci, Père, parce qu'en nous, il n'y a aucune condamnation. Merci, Père, parce que tu as un vrai Père, un Père aimant, un Père qui aime ses enfants. Tu ne fais point de favoritisme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Pas pour ce qu'on a fait ou pas fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je veux vraiment, Seigneur, bénir ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin. Que tu puisses vraiment encore les toucher, Seigneur. Que leur relation avec toi, Seigneur, soit encore plus intense, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que tu augmentes encore leur connaissance, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Pas une connaissance intellectuelle, Père, mais que tu agis dans chaque domaine de leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que s'ils ont besoin de consolation, Père, je prie que tu les consoles, Seigneur. S'ils ont besoin de force, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, fortifie-les. S'ils ont besoin de courage, Seigneur, encourage-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. S'ils ont besoin, Seigneur, d'être pardonnés, Père, je prie, Père, que tu les pardonnes, Seigneur. Parce que tu es ce Dieu de rédemption, ce Dieu d'amour, Seigneur. Et Père, s'ils ont besoin de guérison, Seigneur, que ça soit physique ou émotionnel, Père, je prie que tu les guérisses maintenant, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui est bon, Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité, Père. Merci pour tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et tu connais notre nom, Seigneur. C'est ton amour, Seigneur, qui nous a sauvés. C'est ton amour, Seigneur, qui nous a libérés. C'est ton amour qui a tout.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joël Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.